OK, on continue nos leçons sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu au livre de Deux Rois et on est dans la deuxième partie. On avait vu la semaine dernière la première partie. La première partie est pas mal toujours la même. On fait un survol général avec les différentes idées principales. La deuxième partie est toujours un petit peu plus détaillée et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Alors, on va examiner aujourd'hui trois nouvelles facettes du livre de Deux Rois. C'est leçons spirituelles et morales et quelques observations sur des personnages du livre et son contenu. J'ai mis à la fin, ceux qui ont les feuilles, là, en annexe, le livre de Garrett Crossley. Si jamais vous voulez étudier les livres de l'Ancien Testament, Garrett Crossley, c'est en français d'ailleurs, c'est très bien écrit. C'est un pasteur baptiste réformé anglais d'Angleterre. Ils ont traduit son livre. Et si jamais, lui, il a fait de la Genèse aller jusqu'à Malachie, tout l'Ancien Testament. C'est très, très, très bien fait. Je m'en suis servi très souvent pour préparer les leçons. C'est en trois volumes, puis c'est pas très cher. Si jamais vous avez le goût de vouloir étudier l'Ancien Testament, that is the book, comme ils disent. C'est vraiment, puis ils sont pas chers, puis ils sont de très haute qualité. Alors, je l'ai mis pour que vous sachiez les titres, si jamais ça vous tente. C'est marqué ici sur vol numéro 2. Il y a volume 1, il y a volume 2, il y a volume 3. OK, on va regarder la première idée qu'on voulait regarder aujourd'hui dans Deux Rois. C'est que le livre de Deux Rois comprend des leçons spirituelles et aussi des leçons morales. Je pense que la plupart des gens sont familiers avec l'idée de la typologie. La typologie, c'est qu'on parle d'une comparaison entre un personnage de l'Ancien Testament et la personne de Christ. Alors, dans le livre de Deux Rois, il y a de la typologie. Et on voit ici, ceux qui ont les feuilles, là, typologie d'Élie et d'Élisée. Élie, le personnage, c'est un prophète. Élisée, c'est un autre prophète. Et si quelqu'un se donne la peine d'étudier les deux personnages et de faire certaines comparaisons avec... C'est sûr qu'on ne compare pas un homme avec Jésus-Christ. Mais eux autres, ils veulent juste faire ressortir certaines similarités qu'il y a entre un personnage, entre les prophètes et Jésus-Christ. Alors, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, vu qu'on a pas mal long, alors, voyez-vous, il y en a un que c'est Élie, Jean et Jésus-Christ, mais on va revenir à la fin un petit peu, parce que ce que je voudrais être sûr d'avoir le temps de faire aujourd'hui, c'est à la page 5, les leçons morales générales qu'il y a dans le livre de Deux Rois. On va d'abord faire cette section-là, et s'il nous reste du temps, à la fin, on reviendra sur la typologie. De toute façon, au pire aller, vous avez les feuilles, vous pourriez revenir et regarder ça par vous-même. Mais les leçons morales, je trouve ça très intéressant du livre de Deux Rois, des passés, parce que c'est pas très long, puis en même temps, ça nous montre que chaque livre, il y a des leçons pour le peuple de Dieu. Il nous raconte pas juste une histoire. Il faut s'habituer à lire la Bible, à regarder un récit et à ne pas voir uniquement ça comme un récit. Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que toute la Bible nous a été donnée pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Alors, quand on lit un récit, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner en lisant ce passage-là? Alors, par exemple, si on a l'exemple de ce qu'on appelle les jeunes impies, la plupart des commentateurs pensent que c'était des adolescents. Donc, on va lire le passage, 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve! » Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. La plupart des commentateurs, quand vous regardez qu'est-ce qu'ils disent sur ce passage-là, ils disent que c'est fort probablement des adolescents et que Élie était une personne qui était chauve et il se moquait de lui. Et je pense que la principale leçon que le Seigneur veut nous montrer, c'est que la moquerie, c'est quelque chose que le Seigneur a en horreur, parce qu'ici, il nous montre qu'après qu'ils se sont moqués ouvertement de monte chauve, il riait de lui. Lui, il dit, il se retourna pour les regarder, il est maudit au nom de l'Éternel. Il n'a pas idée qu'elle donne la cuillère, comme on dit. Et en plus, il dit, alors deux ours sortirent de la forêt. Là, on peut dire, ah, c'est un hasard. Pas sûr que c'est un hasard. Alors, deux ours sortirent de la forêt, les déchirèrent 42 de ses enfants. Je pense qu'il y a une leçon très importante là-dedans, surtout si on enseigne à des enfants, de leur montrer que c'est pas une chose très, très, très habile de se moquer des autres. Parce que le Seigneur n'aime pas ça, puis il nous montre qu'il y a toujours des conséquences à ces gestes-là. Alors, l'incident de Bethel constitue ce qu'on pourrait appeler un avertissement solennel. Ça dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « On ne se moque pas de Dieu ». Il rappelle aussi qu'il faut élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, comme on voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et que ceux qui affligent les élus seront châtiés. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Ceux qui affligent les élus seront châtiés. C'est à réfléchir. Les gens qui se moquent des chrétiens, de façon ouverte, ils s'attirent des jugements de Dieu. Alors, l'homme le plus sage de la terre a déclaré, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais des fois, tu vois déjà comment un enfant va se comporter dès sa jeunesse. Il est jeune, puis tu vois déjà son caractère, puis tu vois déjà comment les problèmes que ça va y apporter plus tard. C'est ça que le verset dit. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera droite. Alors, les mesures correctives exercées par Dieu à l'encontre des enfants passent en grande partie par l'autorité parentale à la maison, l'enseignement et la discipline à l'école et les sanctions adéquates imposées par le pouvoir civil sur les jeunes délinquants. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je pense que des fois quand on lit un livre comme ça, puis on tombe sur un passage, c'est de se rendre compte que le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose d'important. Deuxième chose, comme leçon morale du livre de Deux Rois, c'est un culte sans mélange. Alors après que dans leur grande majorité, les habitants du royaume du Nord aient été déportés en Assyrie, Esar-Hadon, roi d'Assyrie, fit venir des gens des cinq nations pour remplacer les Israélites. Babylone, Cutha, Ava, Hamath et Sepharvaïm, qui apportèrent leurs pratiques païennes et les mélangèrent à une forme corrompue du culte. Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvenait que les gens du Nord, on a vu que le royaume d'Israël était divisé en deux. 10 royaumes, qui étaient le Nord, eux ont été déportés par punition pour le Seigneur en Assyrie. Quand une nation qui se disait croyant se ramasse dans un lieu où tous ces gens-là, c'est des païens, qu'est-ce qui se passe normalement? Si c'est des chrétiens fidèles, ils ne se mêlent pas avec eux autres. Mais si c'est des chrétiens qui se laissent aller un petit peu, première nouvelle que tu sais, tu mélanges le culte des nations avec celui de l'Église. Et le Seigneur n'aime pas ça. Alors, ils ont apporté, justement, en fréquentant ces royaumes-là, ils ont apporté des pratiques païennes et les ont mélangés à leur culte à eux, qui a fait un culte corrompu. C'est un peu comme si nous, on se rassemblerait avec toutes sortes de gens qui croient toutes sortes de choses, puis on ne fait pas la part des choses, puis on ne rejette pas ce qui est mauvais, et à quelque part, on viendrait avec un culte corrompu. Alors, ces peuples sont les ancêtres des Samaritains. Parce que c'était, quand on lit le Nouveau Testament, puis on lit les Samaritains, c'est le peuple du Nord qui avait été en Samarie et qui s'était mélangé avec les peuples. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, puis qui a traversé la Samarie, ils ont vu les Samaritains. Mais les Samaritains, c'était des gens anciennement d'Israël qui avaient été se mêlés avec les nations. Et c'est ça qu'on voit dans là-dedans. Alors, ces peuples sont les ancêtres des Samaritains du Nouveau Testament. Des gens qui étaient particulièrement honnis des Juifs. Quand on se souvient le phénomène du bon Samaritain, là, quand le Seigneur... Pour les Juifs, les Samaritains, c'était des impurs. C'était des gens qui avaient mélangé la religion juive avec des nations autour. Alors, la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur Jésus au puits de Sichar est très représentative de cette race. Elle avait été mariée 5 fois et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari, comme on peut le lire dans Jean chapitre 4, verset 18. L'homme n'avait pas jugé digne de se lier à elle par le mariage. Il en était de même de la nation des Samaritains. Elle avait connu 5 mariages spirituels avec des idoles, mais ses unions s'étaient dissoutes de façon aussi frivole qu'elles s'étaient conclues. Les Samaritains aspiraient à s'unir à l'Éternel, mais cette union leur était interdite parce qu'ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Comme tout son peuple, la femme samaritaine devait d'abord se tourner vers Christ par la foi, avant de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est uniquement et exclusivement par Jésus-Christ que le croyant repentant peut offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Très important, la notion du culte. Aujourd'hui, de plus que jamais, c'est des choses qui s'appliquent à nous parce que on vit à une époque où on appelle l'écuménisme, où on est de plus en plus porté à s'unir à toutes les religions ensemble. Et c'est pas une mauvaise chose de dire d'arrêter de se chicaner entre religions. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que je ne peux pas dire musulman, bouddhiste et n'importe quelle religion qu'ils vont aller au ciel. J'aimerais bien ça être capable de leur dire. Oui, tu vas aller au ciel pareil. Mais la Bible dit que tu vas aller au ciel uniquement par Jésus-Christ. Alors nous aussi, on est rendu à une époque où on a beaucoup de mélange autour de nous autres et il faut prendre position. Il faut dire, non, personne ne va aller au ciel s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Alors, très important aussi qu'on fasse la part. Si les Juifs se devaient de faire la part des choses à leur époque, nous, on se doit de faire la part des choses encore à la nôtre. Alors, il y a une autre leçon qui est importante, c'est celle des chefs et des nations. Tout au long de l'histoire de Juda et d'Israël, on constate très souvent un lien entre l'état spirituel du roi et celui de la nation, exactement comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien spirituel entre le chef du Canada et le chef du Québec et l'état spirituel du Québec ou du Canada? Il y a toujours un lien entre l'état spirituel du chef de l'état avec la nation qu'il dirige. Il y a tout le temps un lien. Alors, en général, quand un bon roi règne sur Juda, les habitants craignent Dieu, craignent le Dieu vivant. Et la nation, Dieu bénit, la nation prospère. Mais quand il y a un mauvais roi sur le trône, le peuple tend à devenir plus idolâtre et plus immoral. La nation connaît alors des défaites sur le plan militaire et des désastres domestiques. Il y a cependant des exceptions à la règle, tel roi, tel peuple. Le règne de Jotham en est un exemple. L'auteur du livre décrit le roi comme un homme qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Or, malgré son bon exemple, la nation dans son ensemble agissait de façon corrompue. On voit qu'en général, il y a un lien entre l'état spirituel du chef et l'état spirituel du peuple, mais comme il vient de dire ici, ça arrive que il y avait des bons rois qui faisaient les bonnes choses, qui craignaient l'Éternel, mais que le peuple ne suivait pas. Alors, il y avait les conséquences qu'il y avait avec. Alors, le livre délivre le message global suivant. Les chefs des nations ont une grande influence sur leurs sujets, en bien comme en mal. La preuve, c'est les lois. Quand un premier ministre, disons, va dire, ben, les mariages homosexuels, c'est permis, ben, le mal se produit dans la société. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait en citer des dizaines et des centaines. Donc, les chefs d'État ont une grande influence sur la moralité de leurs sujets, de leurs citoyens. Alors, si la plupart des États ne sont plus des monarchies comme Israël et Juda, il n'en demeure pas moins que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est très important de le voir. D'où la nécessité pour les enfants de Dieu, pour prier pour ceux qui les dirigent. La Bible nous le demande, prier pour nos gouvernements. Il ne faut pas l'oublier. Prier pour nos gouvernements locaux, prier pour nos gouvernements régionaux, nationaux, internationaux, de prier pour les gouvernements. Ne pas oublier ça dans nos prières, ça a une influence. Comme on disait dans le message dimanche, les prières des saints qui montent au Seigneur, ils obtiennent des réponses. Et il y a des choses qui se produisent sur la terre suite à ces choses-là. Vois-tu, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4, ça dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pas moi qui le demande, c'est Dieu qui veut qu'on prie pour. Et ça a un effet sur la moralité de toute la nation. Si tous les chrétiens du Québec et du Canada prieraient tous les jours pour la moralité, puis pour les lois, puis pour les gouverneurs, puis pour ceux qui nous dirigent, ça l'aurait. Une répercussion dans nos vies. Souvent, on lit ça dans les Écritures, mais dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on dit « Seigneur, je te prie pour la mairesse de Mégantic, Seigneur, est-ce que je te prie pour un tel, je te prie pour M. Legault, je te prie pour M. etc. » À quelque part. Alors, cette prière a pour premier objectif de permettre aux enfants de Dieu de mener, comme ça dit dans le texte, une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et son deuxième but est de favoriser la libre propagation de l'Évangile dans tout le pays. C'est sûr que si les gouvernements nous laissent libre de partager l'Évangile, mais si les gouvernements se mettaient à dire « Vous n'avez plus le droit de parler de l'Évangile autour de vous », pensez-vous que ça aurait une conséquence sur la moralité de l'ensemble du peuple? Ça en aurait très, très certainement une. Quand on lit dans Ésaïe 63, verset 19, aller jusqu'à 64:1, ça dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. » Il y a quand même quelque chose d'important. Il dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Il y a deux « si » là-dedans. Si tu descendais. Il dit que même, ça pourrait arriver que les ennemis connaissaient son œil, les nations trembleraient devant lui. C'est pas le cas actuellement, mais ça dit bien si tu descendais. Quelques observations sur les personnages de Deux Rois. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, ça... Bon, on va en parler tout de suite. On va aller... le personnage d'Élisée. Il y a eu Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire d'Élie, il a monté au ciel. Puis, il a prié. Il voulait avoir les dons d'Élie. Il a demandé au Seigneur, je te demande le double de l'esprit d'Élie. Élie la regarde et dit, tu demandes beaucoup. Si tu me vois monter, tu vas l'avoir. Si tu ne me vois pas monter, tu ne l'auras pas. Et Dieu permet qu'il voit monter. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'il a demandé le double, on lit ça, mais jamais on va aller compter le nombre de miracles qu'Élie a fait, puis qu'on va aller compter le nombre de miracles qu'Élisée a fait pour voir si le Seigneur lui a donné le double. Mais j'ai mis le tableau à la page 8. On va les regarder juste pour le fun. Alors, les miracles d'Élie sont à gauche, le premier prophète. Et lui, Élisée, il a demandé au Seigneur, non seulement je vais être comme Élie, mais je vais avoir le double de l'esprit d'Élie. Et là, vous regardez, j'ai tout numéroté. Les miracles d'Élie, il y en a 8. Dans la vie d'Élie, là, dans le livre de Deux Rois, il y a 8 miracles qu'Élie fait. Puis si vous regardez ensuite, si vous comptez dans le même livre, le nombre de miracles d'Élisée, vous arrivez au nombre de 16. Intéressant, hein? Intéressant, moi je trouve ça très intéressant. Alors, quelque part, on voit que quand Dieu... il demande la chose à Dieu de me donner le double de son esprit. Dieu lui a donné. Et c'est intéressant de regarder ces choses-là. Regardez dans la note à la page 8, la note B, là, c'est marqué « Notez enfin la stupéfiante requête. Et Élisée dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ce qui revenait à demander... que je possède deux fois plus de la puissance du Saint-Esprit que n'en possédait Élie. » Élie, t'as pas un deux de pique, là. T'es un grand prophète. Mais c'est pour moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on peut demander des choses audacieuses au Seigneur. On peut lui demander des choses audacieuses quand c'est pour sa gloire. Il voulait avoir la double portion de son esprit, mais c'était pas pour se péter les bretelles, pour montrer aux autres qu'il était... Il voulait avoir la double portion pour la gloire de Dieu. Le Seigneur lui a accordé. Mais quand qu'on... Moi, je n'avais jamais vu ça. La première fois que j'ai étudié, j'ai trouvé ça. La preuve qu'on lit tellement superficiellement. Puis quand on lit attentivement, qu'on se rend compte de ça, Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. C'est très intéressant. Alors, ce qui revenait à demander que je possède deux fois plus de la puissance du Saint-Esprit que n'en possédait Élie. Cependant, son maître, alors Élie, c'était le maître d'Élisée, il avait déjà lui ressuscité un mort, prié pour arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. C'était pas des petites affaires qu'Élie avait faites, là. Puis, de nouveau pria et Dieu lui donna de la pluie. Élie avait vu s'accomplir les miracles les plus merveilleux qu'il fut depuis les jours de Moïse. Et pourtant, voici ce jeune prophète qui ose réclamer de Dieu une double mesure du Saint-Esprit et de la puissance qu'il avait donnée à Élisée. Quelle prière! Quand on lit, par exemple, une biographie d'un grand saint ou d'une grande sainte, est-ce qu'on ose faire ça, nous? On lit le livre, on voit plein de choses qui ont fait intéressant. Est-ce qu'on ose dire à Dieu, « Ce que je viens de lire, là, Seigneur, je te demande le double. » C'est audacieux, hein? Mais il l'a eu. Et le plus surprenant, c'est que Dieu a bien voulu exaucer une pareille prière. Ce qu'on appelle le manteau d'Élie tomba sur Élisée. Et ici, nous considérons soigneusement ces deux ministères. Nous pouvons en déduire que 8 grands miracles ont été accomplis par Élie, alors que le ministère d'Élisée en compte 16 en tout. N'est-ce pas précisément la double portion de l'esprit réclamée dans sa prière. Moi, je trouve que quand on lit des livres comme ça, qu'on étudie un livre, qu'on prend la peine d'aller regarder des gars comme Crossley, lui, ils nous font voir des choses semblables. Et ça a des répercussions dans notre vie, ça. Parce que si jamais, après, on lit quelque chose, disons, d'un saint ou une sainte, est-ce qu'on est, comme on dirait, assez baveux pour demander ça au Seigneur? Le Seigneur, il aime ça, les baveux. Les baveux, dans ce sens-là, là, de demander plus de le double d'esprit d'un grand saint, le Seigneur, il aime ça. La preuve, il exauce. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ces leçons-là sont dans le livre. Alors, Dieu peut susciter des hommes de puissance comme Élisée. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'un homme se lève avec la même hardiesse, le même abandon à sa volonté, pour réclamer cette même puissance divine. Oserons-nous réclamer de pareilles grandes choses à notre Dieu? Moi, je trouve que ça parle fort. Quand on regarde Élisée, 2 Rois, chapitre 3, verset 11, mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Autrement dit, Élisée était un contemporain d'Élie et il l'a servi. Il était son serviteur durant son ministère. Élie avait un ministère, il l'accompagnait et il était son serviteur. Quand il s'est dit ici qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie, c'est une expression qui voulait dire qu'il était le serviteur. Il était le serviteur, mais il a vu que Dieu lui accordait de grandes choses. Lui, il a dit, « Ouais, ben moi, je vais t'en demander le double. » Il l'a eu. Intéressant. Aussi, qu'il était d'un grand courage. 2 Rois, chapitre 3, versets 13 et 14. « Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois jours pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée lui dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais attention à toi et je ne te regarderais pas. » Et c'était un homme d'un désintéressement exemplaire. On est déjà rendu à 27 minutes. Ce que je veux faire, c'est que je vais vous laisser les feuilles, vous allez pouvoir continuer. Mais il y a une chose que j'aimerais qu'on regarde avant de terminer ce soir, c'est l'histoire de Manassé. Moi, la première fois que j'ai lu ça, et ça me fait encore ça, quand je le lis, il était un roi le plus méchant d'Israël, il était un roi pourri. Pendant 55 ans, il a fait de l'idolâtrie. Des meurtres d'enfants, il a brûlé des enfants à Moloch. Le roi, il était pourri à l'os, comme on dit, pendant 55 ans, et le Seigneur lui a fait grâce. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai pleuré, je vous le dis franchement, je regardais ça en me disant moi-même, parce que faut s'identifier un petit peu. Hein? Et moi aussi, j'étais méchant, puis moi aussi. Puis le Seigneur vient te chercher dans ta misère, dans ta... Alors, c'est très intéressant. Quand vous regardez... À la page 11, au début de en haut, là. Manassé fut le fils d'Ézéchias. On sait qu'Ézéchias avait été un roi fidèle. Mais quel contraste avec son père. Son règne dura 55 ans et fut complètement corrompu. Si vous lisez l'ensemble des versets que je vous ai mis là, dans 2 Rois 21, versets 1 à 16, c'était un roi pourri et le Seigneur a permis qu'il se fasse prendre, qu'il soit déporté. Mais à la fin de sa vie, je vais essayer de vous trouver un verset. Alors, OK, vous l'avez trouvé, et on termine là-dessus. Malgré son immense méchanceté, c'était pas un roi qui avait une petite méchanceté ordinaire, extrême idolâtrie pendant 55 ans, spiritisme, offrande de sacrifices humains, écoute, c'est pas une petite affaire, là. Violence extrême, c'est un homme violent. Plus grande méchanceté que les nations. La Bible dit que sa méchanceté était plus grande que celle des nations. Autrement dit, c'est comme si on dirait qu'un chrétien aujourd'hui est encore plus méchant que le monde. Regardez bien ce que ça dit au verset 13. Non, au verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, bien sûr, quand il a été déporté, il était dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après avoir été méchant de même pendant 55 ans, ça prend une grâce particulière pour reconnaître que l'Éternel est Dieu. Alors, c'est des livres qui ont des choses intéressantes à nous apprendre. Alors, je vous laisse, vous avez les feuilles, vous allez pouvoir regarder tout ce qu'on n'a pas eu le temps de regarder pour compléter votre étude par vous-même. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.